jusqu'à 19h. Cap Sport.
Super Dario a encore frappé. Dario Colonia est devenu champion olympique du 15 km ce matin à Pyeongchang. La première médaille d'or helvétique de ces Jeux provient ainsi du ski de fond et non du ski alpin. Dario Colonia a ainsi le mérite de propulser son sport sur le devant de la scène. Dans l'arc jurassien, le ski de fond dispose d'une belle tradition, même si le nombre de compétiteurs diminue drastiquement et que peu de clubs travaillent pour la relève. En revanche, c'est devenu une activité de loisir très prisée. On en parle aujourd'hui jusqu'à 19h dans Cap Sport. Bonsoir et bienvenue dans notre magazine de la rédaction sportive, une émission ski de fond. Donc ce soir, on va par conséquent suivre la trace d'un grand amateur de la discipline, pratiquant assidu, Marcel Neuenfinder. Bonsoir.
Oui, bonsoir, effectivement. Bon, il faut ouvrir le micro, voilà.
Oui, le bon micro.
Le bon micro, Yannick.
Comme il faut suivre la bonne trace.
Effectivement. C'est vrai, hein, le ski de fond est un sport de tradition dans les hautes vallées du Jura-Neuchâtelois et dans les franches montagnes. Mais l'enneigement, il devient très capricieux. La saison d'hiver aurait tendance à se raccourcir, donc de quoi réfréner les ardeurs et aussi décourager la relève. Mais il y en a encore des passionnés qui s'investissent à fond pour la compétition ou comme activité de loisir. Nos invités, tout d'abord, il y aura Christophe Pitié, directeur technique du ski club La Vue des Alpes, un des rares clubs qui s'investit encore pour la formation, et plutôt bien d'ailleurs. Et puis aussi Christophe Frézard, organisateur de la Franche Nordique qui a lieu dimanche au Brûleux et qui est inscrit au calendrier de la Swiss Lopette.
Et c'est Christophe Frézard que nous avons tout d'abord en direct par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Christophe Frézard, nous allons immédiatement évoquer cette compétition qui mérite une petite présentation peut-être. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est concrètement la Franche Nordique ?
Alors la Franche Nordique, c'est une course qui à la base aura lieu dans les Franches Montagnes, mais cette année, exceptionnellement, elle sera déplacée sur les hauteurs du Mont Crozin pour question d'enneigement. Et c'est une course qui fait donc partie du VTO Ski Tour, le championnat des courses du Giron Jurassien. Et cette année, ben, nous avons repris l'organisation du Franco-Suisse qui ne se fera plus, et c'est-à-dire que notre Franche Nordique devient une manche de la Swiss Lopette.
Alors, on va en parler de cela, Christophe Frézard. Un mot, où c'est qu'elle va se dérouler ? Au Mont Crozin, vous l'avez dit, parce que là, l'enneigement est suffisant.
L'enneigement est suffisant, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de tracer les pistes, de préparer les parcours, il y a quand même quelques endroits un peu délicats, la pluie est encore annoncée demain, mais les conditions seront bonnes et on va pouvoir assurer une belle course et de bonnes conditions ici sur le Mont Crozin.
Il y a souvent peu de neige dans les franches montagnes ces dernières années, par contre du côté du site du Mont Crozin c'est différent, hein. C'est un site où l'enneigement est quand même supérieur.
Oui, clairement. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude et alors que le plateau des Franches Montagnes est vert, eh ben ici, on a depuis mi-novembre, on skie sans arrêt. Donc, c'est vrai que c'est une bonne solution de repli et ça permet aux gens de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions.
Est-ce que vous avez le sentiment, si on parle enneigement, qu'aux Franches Montagnes, ça devient de plus en plus délicat, que régulièrement, je dirais, à 1000 mètres d'altitude, il fait défaut, que les saisons sont de plus en plus courtes?
Oui, ben c'est clair, quoi. Il y a longtemps que ça dure, hein. Ça fait les années 90, était déjà très mauvais au niveau de l'enneigement, mais maintenant, on arrive à trouver des parcours qui sont ombragés, qui sont à l'abri du vent, et où c'est qu'on arrive en principe toujours à trouver une solution pour pouvoir quand même faire des entraînements avec les jeunes et pouvoir skier, quoi.
Christophe Frézard, on l'a dit, la Franche Nordique est inscrite au calendrier national de la Swiss Lopette. Elle a pris la place laissée vacante par le marathon franco-suisse des Cernay-Verrières. C'est une course traditionnelle qui disparaît du calendrier. On a vraiment le sentiment que les compétitions de ski de fond n'attirent plus, ou alors vraiment que des initiés.
Ben, je suis pas vraiment très avis parce qu'on voit quand même un renouveau, on voit beaucoup de nouvelles personnes sur ces courses, on voit quand même des pas mal de gens qui se mettent au ski sur le tard et qui viennent faire ces courses. On voit que la fréquentation est quand même plutôt à la hausse, surtout cet hiver. Et puis au niveau des jeunes, on a clairement quand même un beau renouveau avec une relève qui est là, avec les cadres du CRP du Giron Jurassien qui sont là. On a des champions suisses, je crois qu'on a quand même une belle relève et je pense qu'il faut voir le positif et je pense plutôt qu'on est en train de se reconstruire.
Justement, en termes de participation, par exemple, combien de fondeurs participent à la Franche Nordique ?
Alors ça, c'est une question un peu délicate vu que c'est notre première édition, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Actuellement, 120 personnes sont inscrites, mais moi, je pense qu'on peut tabler facilement sur une participation de 200 coureurs.
Alors, vous l'avez dit, en termes de populaire, on voit des nouveaux visages. Qu'est-ce qu'il faudrait délivrer comme argument pour attirer justement ces populaires ? Leur dire que c'est à portée de tous, que ce n'est pas inabordable ?
C'est exactement ça. C'est des parcours qui sont à portée de tout le monde. Il faut juste que les gens fasse le pas une fois, de mettre un dossard et de venir se côtoyer aux autres et venir, disons, dans une ambiance qui est finalement festive et qui est sympathique. Et puis, je crois que tout le monde y couvrira son compte et surtout les gens trouveront du plaisir et verront que... Et verront que voilà, qu'une course de ski de fond, ben, c'est plus du plaisir qu'une galère, on va dire.
Ça, c'est sûr. Ça peut être aussi une galère quand même de temps en temps, non?
Ah, ben, c'est clair que des fois, quand il y a la pluie, le vent, la neige, c'est pas forcément facile. Mais dimanche, les conditions sont rapides, vu que la neige sera transformée, elle sera froide. Ils annoncent une nuit froide. Et surtout, il y aura le soleil. Donc, je pense que l'occasion sera belle pour les indécis de venir se tester dimanche sur l'approche nordique.
Christophe Frézard, on vous souhaite le soleil, bien évidemment. Un petit mot, peut-être, qu'en est-il de la relève du côté du ski club Sénélagier?
Eh ben, la relève, là, on a une bonne petite équipe de 30-40 gamins qui viennent aux entraînements. Et on gentiment les amène sur les courses. Et je pense que, ouais, on a quand même une relève qui se profile et c'est bon signe.
Christophe Frézard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end, puis une bonne course.
Merci, c'est gentil. Et on appelle vraiment tous les indécis de venir nous rejoindre dimanche.
À partir de quelle heure?
À partir de 10h, les premiers départs sur le Mont Crozin.
Voilà, le message est passé. Christophe Frézard, merci beaucoup et une très belle soirée.
Merci à vous.
Et nous avons au téléphone maintenant un fondeur que vous connaissez très bien, avec lequel vous vous êtes souvent tiré la bourre, on va dire ça comme ça. C'est Christophe Pitié que nous avons rejoint en direct de Cédroun dans les Grisons. Christophe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors Christophe Pitié, il y a une raison assez simple pour laquelle vous vous trouvez en ce moment du côté de Cédroun. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Alors, on accompagne nos jeunes U16, U14 pour les championnats suisses.
Alors, championnat suisse du côté de Cédroun, c'est du côté des Grisons, assez loin d'ici évidemment. Mais Christophe Pitié, vous vous investissez pour la relève du ski club La Vue des Alpes. Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui s'intéressent au ski de fond? Vous me dites, vous accompagnez les jeunes. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent au ski de fond?
Alors, on va dire de plus en plus, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on a relancé un groupe là sur la Vue des Alpes. Au début, on a commencé avec une petite équipe de 5-6 enfants. Et puis maintenant, tous les mercredis, on est en 30 et 40 enfants, entre 6 et 15 ans. Donc on a vraiment un beau groupe.
Alors, au ski club La Vue des Alpes, est-ce que vous pouvez peut-être me décrire quel type d'encadrement on propose? Par exemple, le mercredi après-midi, ce n'est pas seulement faire des kilomètres sur des lattes?
Non, alors c'est tout le contraire. Le but pour un ski club, c'est vraiment de faire découvrir ce sport aux tout jeunes. C'est de s'amuser sur les skis, donc on fait quasiment que du jeu. Tout se passe par le jeu. Donc on va surtout pas faire des kilomètres, ça ils le feront plus tard pour ceux qui souhaitent vraiment après crocher et puis éventuellement faire de la compétition ou autre. Mais les enfants, c'est vraiment sous l'aspect ludique qu'ils pratiquent le ski.
Précisément, le ski de fond, comme le cyclisme par exemple, c'est un sport d'endurance. L'entraînement foncier, ça peut venir plus tard. Il n'y a pas besoin d'être bon à 12 ans, comme au gymnastique par exemple.
Non. Alors après, c'est une question de coordination, d'équilibre. Tout ça, les enfants, ils apprennent très vite. Et il y a une énorme progression pour un enfant qui n'a jamais pratiqué de ski de fond. En une année, ils se débrouillent vraiment déjà sur ces skis, c'est assez impressionnant. Ces enfants apprennent très très vite.
Vous êtes l'un des clubs dynamiques du Giron Jurassien, il faut le dire, en matière de formation au niveau du ski nordique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas beaucoup d'autres.
Alors, actuellement, on est trois clubs formateurs. La Brévine, Sénélagier, La Vue des Alpes. Donc, principalement, après, il y a peut-être d'autres groupes aussi. Mais on est vraiment les trois clubs qui amenons après aussi des enfants sur les petites courses, qui essayons un petit peu aussi de leur donner goût à participer à quelques courses.
Christophe.
Et puis, c'est vrai que maintenant...
Ouais. Oui, allez-y.
C'est vrai que maintenant, il y a des formats de courses à peu près pour tous les niveaux. Il y a eu un grand effort qui a été réalisé par le Giron Jurassien, où on retrouve des petites courses accessibles aux débutants, ça s'appelle les eLiberty Nordic Games. C'est vraiment des jeux où les enfants peuvent venir participer. C'est quatre étapes les mercredis après-midi. Donc ça donne déjà un petit... ça les amène déjà à participer à des... On va pas appeler ça des compétitions, mais déjà on leur met un dossard, ils ont des points, n'y a pas de classement, mais c'est vraiment ludique. Et puis ensuite, on a le Viteo Ski Tour, ça c'est pour l'aspect régional. Puis après, on monte avec le Kids Nordic Tour niveau roman et l'Helvetia Nordic Trophy au niveau suisse.
Donc il y a
donc on a vraiment toute la gamme.
Voilà, toute la gamme, différents échelons de difficultés. Faut-il aussi encore des personnes compétentes qui s'occupent de ces jeunes, qui aient envie de s'en occuper? Vous m'avez dit, c'est peut-être cela la difficulté. C'est ce que vous faites, mais il faut en trouver d'autres.
Voilà, alors effectivement, au départ, il faut des gens qui ont envie de s'investir, qui aiment ce sport. Là, on en a quelques-uns quand même dans le Jura. Mais maintenant, l'objectif vraiment, en tout cas pour nous, c'est de mettre en place quelque chose qui dure. Ce ne sont pas juste un one-shot sur quelques années où là, il y a un groupe qui marche et puis tout va bien. Puis après, quand la personne ou les personnes arrêtent, que tout s'arrête. Donc vraiment, le but, c'est de mettre en place quelque chose qui dure avec une organisation qui soit... Qui dure dans le temps, quoi.
Quelque chose qui dure sur le site de la Vue des Alpes, parce que c'est peut-être l'un des sites qui figure parmi les plus favorables en raison de son enneigement, hein, du côté de l'arc jurassien.
Alors c'est vrai que ces dernières années, on a eu quand même un petit peu des difficultés avec l'enneigement, mais on a quand même, en tout cas l'année passée, réalisé quasiment tous les entraînements quand même sur le site. Donc on a de la chance, on a une altitude qui est souvent quand même favorable. Donc on a tout ce qu'il faut, je dirais, pour pratiquer ce magnifique sport.
Christophe Pitié, un mot. Dario Colonia a donc été sacré champion olympique ce matin. Est-ce que cela fait rêver les jeunes que vous entraînez?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, là, ils sont... Il y en a beaucoup qui suivent ça. Ça passe à la télévision, dans les journaux. C'est bon pour notre sport, il ne faut pas se le cacher. Et puis, ces jeunes, ils se projettent, ils voient. Voilà, il faut aussi des modèles comme ça qui tirent tout le monde en avant.
En espérant qu'on ait de futurs Dario Colonia peut-être dans ses rangs juniors. Christophe Pitié, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et on vous souhaite une très belle fin de saison.
Merci.
Et au revoir. Et à 18h45, on va continuer, Marcel, notre petit tour du ski de fond dans la région. Un troisième ancien compétiteur nous a rejoint au téléphone. C'est Laurent Donzé qui lui préside Romandie Ski de fond, l'association fêtière. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Alors, Laurent, un mot peut-être. Bonsoir également. Sous forme de rappel, de quoi s'occupe Romandie Ski de fond tout d'abord?
Alors, Romandie Ski de fond s'occupe essentiellement du traçage des pistes, c'est-à-dire qu'on a environ une cinquantaine de centres nordiques en Suisse romande qui trace des pistes essentiellement pour les loisirs, mais aussi pour les compétiteurs.
Laurent, la Suisse dispose donc de quelques compétiteurs de deux classes, hein, mais cela reste, à mon avis, l'arbre qui cache la forêt. La base de la pyramide fait peut-être défaut. Faire de la compétition devient, à mon avis, de plus en plus compliqué, surtout pour les jeunes dans l'arc jurassien. Comment vous entrevoyez cela?
Alors, disons qu'il faut dire que le sport évoluait. Le ski de fond arrivait comme sport populaire dans les années 70. Ensuite, on a vu l'arrivée du skating, qui a donné un coup de jeune au ski de fond. Et puis maintenant, le sport de loisirs est différencié du sport de compétition. C'est deux mondes distincts, des trajectoires différentes, des engagements différents. Donc, beaucoup de raisons pour que, finalement, on a un tournant. Hein. Le ski de fond prend un nouveau visage. Il faut que des structures, des cellules de compétition se créent. Et ce n'est plus les ski clubs au sens traditionnel du passé qui sont aptes à amener des gens au plus haut niveau.
Donc, on parle plutôt de cellules de compétition. C'est un peu à l'image de ce que fait un ski club, c'est celui de la Vue des Alpes, même si c'est un ski club.
Oui, tout à fait. C'est plutôt, même les ski clubs sont appelés à se regrouper, parce que s'il faut des entraîneurs, s'il faut des infrastructures plus importantes, automatiquement, il faut grouper les forces pour aller jusqu'au bout de la montée, jusqu'au bout de la pyramide.
Mais quel développement voyez-vous à ce sport au ski de fond? Plutôt une activité de loisir. De ce côté-là, ça se développe beaucoup, ça peut se développer?
Alors là, je pense qu'il y a un immense potentiel. Hein. Ça veut dire que ce sport, en tant que tel, il est vraiment qui correspond à un mode de société. Hein. Sport de santé, nature, anti-stress, ensuite il y a peu d'accidents. On va y trouver une composante cardio, force, coordination. Donc finalement, un tas d'arguments qui fait qu'au niveau populaire, ça ne peut que, je dirais, prendre de l'ampleur.
Et est-ce que ça a pris de l'ampleur? Est-ce que ça prend de l'ampleur? Parce que vous êtes dedans depuis de longues années.
Alors, je crois que ce qui se passe essentiellement, c'est un changement de population. Hein. Avant, il y a des gens maintenant, des multisports, qui vont prendre le ski de fond quand la neige est là, mais qui feront autre chose à côté. Alors qu'avant, il y avait des gens qui étaient plus orientés vers un sport, qui faisaient que ce sport-là, etc. Donc, le multisport, je pense, c'est dans l'air du temps, d'une part. Quelques points, disons, défavorables. Je pense que l'approche technique du ski de fond, parce que le ski de fond, contrairement à ce qu'on imagine, ça s'apprend. Hein, c'est plutôt un aspect négatif. Hein. Vous allez courir, vous mettez au basket, vous courez. C'est peut-être pas d'un niveau extraordinaire, mais vous pouvez courir. Vous faites du vélo, vous sautez votre vélo, vous faites du VTT, il n'y a pas de problème. Dans ce ski de fond, ça n'a pas un minimum de base technique. Ça va demander beaucoup d'énergie, puis le résultat, c'est un peu décevant. Donc là, ça crée un petit frein, je dirais, au développement du ski de fond.
Pour en doser un mot aussi, peut-être le ski de fond est beaucoup plus économique que le ski alpin. Une comparaison, pour 80 francs, vous skiez un jour à Zermatt et une saison sur l'ensemble de l'arc jurassien. C'est un atout.
C'est clair, c'est un atout. Hein. L'autre argument, c'est que peu de déplacements. Hein. Si on prend la Suisse romande, on a un vaste réseau de pistes, on a l'accès qui est évidemment facile, et puis finalement, bon marché. Sans compter que ce sport est praticable à tout âge. Donc, tous ces arguments font que je pense que ce qu'ils font encore de beaux jours devant lui.
Laurent Danzé, un dernier mot pour terminer sur la performance de Dario Colonia. Celle-ci peut-elle susciter des vocations parmi les jeunes? C'est un exemple.
Alors ça, c'est indéniable. Hein. C'est indéniable qu'il a toujours voulu des éléments catalyseurs pour relancer l'activité. Et puis, il faut vraiment être conscient qu'on a avec lui un catalyseur extraordinaire. Donc ça, c'est je pense, on peut, je pense pas assez s'imaginer, disons, l'aura qu'il peut avoir, même dans tout le monde du sport et du ski en particulier. Hein. Donc je pense, une locomotive sur laquelle on va pouvoir construire les prochaines années.
Un super champion d'Ario Colonia, indéniablement. Merci d'avoir été en notre compagnie, Laurent Danzé, durant ces quelques minutes, et bonne fin de soirée. Au revoir.
Merci, Paris-Mont, au revoir.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
Et pour cette fin d'émission, décollage pour l'Amérique du Nord, les amoureux de basketball l'ont noté, ont noté ce rendez-vous dans leur agenda. Les All-Star Games de la NBA, la fameuse ligue professionnelle nord-américaine, ont lieu ce soir et dimanche du côté de Los Angeles.
Oui, le Genevois Clint Capela n'a pas été retenu pour cette fête du basketball, mais son nom avait circulé pour figurer dans l'une des deux équipes de joueurs qui vont s'affronter. La formule de sélection a en effet changé pour rebooster un événement qui perdait un brin de son intérêt. On écoute les explications de Bastien Fontagneux, journaliste spécialisé.
C'est un événement qui a perdu beaucoup de son charisme, de son identité. Et donc, du coup, c'est plus devenu une sorte de cour de récréation avec des multimillionnaires qui se baladent un petit peu le dimanche soir en plein mois de février. Donc, du coup, la NBA a décidé justement de partir sur un potentiel modèle qui a déjà été observé dans d'autres sports, notamment au hockey sur glace, et qui consiste à avoir deux capitaines qui eux-mêmes font leurs équipes. C'est ça un petit peu la grosse modification cette année. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des équipes qui sont faites uniquement par les fans ou par les entraîneurs via des votes et des sélections, eh bien on a ces mêmes sélections mais juste pour deux joueurs qui ensuite, eux, ont fait leur propre sélection, leur propre draft.
Mais donc ça devient un petit peu du copinage, les copains contre les autres copains?
En tous les cas, c'est que les dernières années, il y avait beaucoup trop de copinage et c'était pris un peu pour un match de charité plus qu'autre chose. Il n'y avait pas du tout la plus grosse blague qui a eu lieu l'année dernière puisqu'il y a eu quasiment 400 points qui ont été marqués. C'était devenu un petit peu n'importe quoi, donc... Par rapport au copinage là, qui est mentionné, les joueurs, en tout cas de cette génération, sont très proches les uns les autres, hein, que ce soit grâce aux réseaux sociaux et parce qu'ils ont fait des circuits universitaires assez proches. Mais c'est surtout le fait que il y avait pas énormément d'anges ni d'âmes en fait à ce All-Star Game. Donc l'emporter, c'était juste une anecdote, alors qu'avant c'était très important. Et donc pour changer ça, eh bien la NBA a décidé vraiment pour le coup de briser ce potentiel copinage en mettant des rivalités vraiment au centre du jeu, et donc notamment des sélections, puisque LeBron James d'un côté et Stephen Curry ont dû choisir des joueurs avec qui ils sont peut-être pas forcément hyper copains. Quoi.
Alors la sélection des meilleurs joueurs a été validée, le All-Star Game ça commence ce week-end, le Genevois Clint Capela n'a pas été retenu, mais son nom a circulé. Alors peut-on parler d'une nette progression cette année pour ce joueur?
Ah oui, c'est d'ailleurs, il fait une super saison, il est au cœur de la magnifique saison des Rockets. D'ailleurs, les quelques matchs où il a été absent, ça s'est tout de suite ressenti. C'est super ce qui lui arrivait. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir, notamment l'année dernière, il était déjà là, il était avec James Harden notamment, avec qui ça se passait très bien. Et en fait, ce qui s'est passé notamment pour ceux qui l'ont su un petit peu, il y a Chris Paul qui est arrivé, et tout de suite, ça a été très drôle de voir que tout le monde disait « Incroyable, Clint Capela va être servi ». Par deux des meilleurs distributeurs de la NBA, et il en profite cette saison avec juste une campagne qui est sublime dans son rôle à lui, ce qui ne sera jamais un rôle très très gratifiant, hein. C'est plutôt le rôle du col bleu qui va faire le travail dans la mine, entre guillemets, qui va mettre les mains dans la gadoue, mais c'est tellement fondamental pour les Rockets que, résultat, en tant que pivot titulaire et solide et prometteur de cette équipe texane, eh bien ils sont deuxième de la conférence Ouest, vraiment dans le rétroviseur des Warriors. Donc, il va pouvoir toucher très probablement un immense contrat cet été, et il le mérite parce que c'est clairement un produit formé à Houston, qui a été patient, qui a bien bossé, qui est passé après Dwight Howard, etc. Et donc, du coup, il commence à être récompensé par ça. Donc, super saison. Après, par rapport au All-Star Game, dans une conférence Ouest, parce que ça reste encore pour le All-Star Game une division entre joueurs de l'Est et joueurs de l'Ouest pour la sélection des joueurs, la compétition et la concurrence surtout est telle avec les intérieurs que c'est un petit peu trop tôt pour lui, je pense, pour être étoilé.
Et si on devrait analyser juste son jeu, c'est quoi ses principaux atouts? Qu'est-ce qui fait que Clint Capela tient à ce point bien son rôle?
Bah, Clint, ce qui est super avec lui, c'est que déjà c'est un moteur absolument fou, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va être très énergique et très actif des deux côtés du terrain. Donc avec une envergure que je n'ai pas sous les yeux, mais qui doit probablement faire la taille d'environ deux bureaux. Voilà, c'est un albatros. Pour le coup, ça lui permet déjà de très bien défendre, et en plus d'avoir des longs bras, il est très mobile, ce qui lui permet de très bien défendre à Houston, et Houston qui a besoin justement de défense et d'un protecteur de son arceau. Donc, première qualité, c'est un col bleu. C'est-à-dire que si on utilise ce terme-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne va pas rechigner devant les tâches un petit peu ingrates, qui va accepter de pouvoir se bastonner un petit peu avec les grands baobabs qui sont NBA, avec les grands joueurs qui font à peu près ces dimensions. On est sur plus de 2m8, plus de 2m10, et la bonne 120aine de kilos. Et donc, pour le coup, sa première qualité, c'est vraiment ses qualités athlétiques, mais on peut pas juste se limiter à ça. C'est un joueur intelligent, patient, qui en attaque ne demande pas justement à avoir le ballon et qui va juste s'adapter à ses stars qui sont autour de lui. Donc c'est le lieutenant idéal pour des All-Stars. C'est vraiment le joueur qui va faire toutes les tâches que les grandes stars ne veulent pas faire et qui va en plus pouvoir contribuer quand les défenses vont se resserrer autour de ses joueurs. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'il cartonne et qu'il est fortement apprécié.
C'était les propos recueillis par Yves Londoneau. Et c'est aussi la fin de cette émission Cap Sport que vous pouvez retrouver en podcast sur nos sites d'information en ligne. Mais d'autres rendez-vous sportifs vous attendent tout au long du week-end, à commencer bien évidemment par ce soir déjà, et deux matchs de hockey sur glace sur le coup de 19h45, à savoir entre le HC Ajoie et les GCK Lions, ainsi qu'entre Zoug Academy et le HC La Chaux-de-Fonds. Samedi, rencontre de basketball à suivre à 17h30, un match entre Fribourg Olympique et le BC Boncourt. Et puis dimanche, du hockey à nouveau avec le HC La Chaux-de-Fonds qui reçoit le HC Turgovie. Cette rencontre débute à 17h30 et on ne pourra pas se priver du plaisir de rajouter une, à savoir le match au sommet de Challenge League, c'est lundi sur le coup de 20h entre Neuchâtel Xamax FCS et Servette. Bonne fin de soirée à tous.
On ne va pas oublier, Marcel, n'oublions pas les nouvelles évidemment des Jeux Olympiques de Pyeongchang. C'est notre émission quotidienne consacrée donc aux JO, les Seigneurs des Anneaux. Elle est diffusée en semaine de 13h05 à 13h30 et puis pour le week-end, pour demain et dimanche, de 12h35 à 13h, histoire de tout savoir un peu l'actualité des JO, le programme également, les réactions de nos athlètes suisses présents au JO, présents en Corée du Sud, recueillis par nos envoyés spéciaux directement sur place. Et puis juste comme ça en passant, les JO, c'est également en images les photos ramenées par nos envoyés spéciaux sur nos différentes applications Instagram. On conclut là-dessus, on a tout dit je crois. On se donne rendez-vous pour les plus sportifs vendredi prochain à la même heure pour un nouveau Cap Sport. Très belle fin de soirée.
Au revoir.
Cap Sport.